Conte aux quatre vents, une émission réalisée avec le Cercle des conteurs du Briançonnais, disponible tous les derniers mercredis du mois sur Fréquence Mistral. Le navet.
Il y a bien longtemps de cela, c'était l'époque où on ne connaissait pas les pommes de terre, les patates, dans la région. Et on s'alimentait de navets, par exemple. À Puy-Saint-Pierre vivait Séraphin Fifocol. Il avait une réputation de cultiver et de récolter des navets les plus beaux, les plus gros de Puy-Saint-Pierre. Et ce jour-là, dans son champ, il arrachait ses navets. Et là, quelle surprise ! Un navet énorme, gros comme une marmite. Mais, se dit-il, mais qu'est-ce que je vais faire de ce navet ? Il y a des soupes à faire pour des jours et des jours, on va s'en lasser. Il a pensé à ses voisins, et non, à qui donner ce navet ? Lui est arrivée une idée. Il avait, à Briançon, la connaissance de Maître Gripassou, notaire, et qui était très gentil avec lui. Alors il se dit, mais pourquoi pas lui donner ? Ça lui fera peut-être plaisir. Alors il a mis ce gros navet dans sa charrette. Il est descendu à Briançon et a frappé à la porte du notaire. « Ah, bonjour, Séraphin. Comment vas-tu ? » ? Eh bien, maître, voilà, vous avez toujours été très gentil avec moi et voilà, je veux vous donner quelque chose et Séraphin lui a donné le navet. Le notaire a regardé le navet, a regardé Séraphin. Elle se dit, oh, il est gentil, il a voulu me faire plaisir. Alors il a pris le navet et il l'a mis sur son bureau. Et puis en même temps, il s'est dit, comment je vais le récompenser ? Il est si brave, ce Séraphin. Il a ouvert son coffre, a pris une petite bourse en cuir et a mis dedans quelques pièces d'argent. Il est revenu et a dit à Séraphin, voilà Séraphin, ça m'a vraiment fait plaisir que tu penses à moi. Alors voilà, cette petite bourse avec quelques pièces. Fais-en bon usage. Séraphin, ému, tripotait sa casquette et se demandait comment le remercier. Ils se sont séparés. Et le Séraphin, tout content, joyeux, est remonté à Puy-Saint-Pierre en chantant. Et là, sur le bord de la route, il croise son cousin, Bertrand. Bertrand est un homme que personne n'aimait vraiment. C'était un genre d'homme d'affaires de l'époque, qui profitait des uns et des autres. En voyant Séraphin si joyeux, il se dit « un pauvre qui s'amuse, qui est joyeux, mais qu'est-ce qui lui arrive ?»« Ah, Séraphin, mais qu'est-ce qui t'arrive de chanter comme ça ?» « Eh bien, voilà Bertrand, je viens de chez le notaire, Maître Gripassou, et je lui ai donné un navet, et il m'a donné quelques pièces d'argent. » « Ah !» Et là, dans la tête du Bertrand, il se dit, « Ah bon, s'il a donné quelques pièces d'argent pour un navet, je vais lui proposer quelque chose. » Ils se sont séparés, et le Bertrand est allé à la Roche de Rame, acheté une belle mule. Il a mis dessus une selle en cuir. Il est revenu à Briançon, a frappé à la porte du notaire, qui lui a ouvert. « Ah, Bertrand, comment allez-vous ? » « Eh bien, maître, voilà, vous m'avez fait faire quelques très bonnes affaires et je voudrais vous remercier. » « Ah, et voilà. Le notaire, dans sa tête, se dit « Mais qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui à vouloir me remercier ?»« Maître, voilà, je suis désolé, mais j'ai pas trouvé mieux que de vous offrir cette belle mule et cette selle en cuir. » Le notaire a ouvert des grands yeux et se dit « Mais cet homme si riche, comment je vais pouvoir le remercier ?» avec tout l'argent qu'il possède. Alors il est allé dans son bureau, il est revenu et a donné le navet à Bertrand.
Les deux prochains contes ont été transmis à Jean-Yves par une de ses amies, Hélène Giraud, aujourd'hui gravement malade. Le premier s'intitule « La pièce d'or du diable ».
Il y a quelque temps de cela, à Villa San Pancras, vivait, est-ce qu'on disait à l'époque le grand Villard, vivait un forgeron qui travaillait beaucoup, mais il avait un cœur gros comme ça. Et quand les gens venaient lui faire réparer un outil ou en forger un œuf, il disait toujours « Oh, tu me paieras plus tard !» Et bien sûr, sa famille, ses enfants, il en avait 6, sa femme, eh bien, en subissaient les conséquences. Il n'y avait pas de quoi souvent manger à la maison. Alors le temps a passé, ses enfants maigrissaient, sa femme s'échinait dans un petit jardin. Il s'est dit qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. Il a entendu parler du diable qui était là-haut, en haut du pic du diable, qu'on appelle maintenant cette montagne la plus haute de Villars-Saint-Pancras, Père Haute. Alors, dans son petit cabas, il a mis un trognon de pain, rassis, une gourde d'eau, et il est monté au pic du diable. Quand il est arrivé en haut, le diable était là. Ah, avec son regard mauvais, ses cornes sur la tête, son habit noir paré de rouge et ses pieds de bouc. Le forgeron eut un moment de recul, ce regard si noir, si méchant en face de lui. « Ah, forgeron, te voilà, hein, je t'attendais. » « Alors, tu as besoin de moi ?»« Eh oui, diable, j'ai besoin de vous. »« Je sais. Je suis le diable, je sais tout. »« Alors, voilà. Ce que je vais faire, je vais te donner une pièce d'or. »« Et tu paieras tes dettes avec. »« Mais, diable, une pièce d'or, ça suffira pas. »« Écoute, forgeron, voilà comment ça marche, mon histoire, et qui sera la tienne. » Eh bien, quand tu paieras, tu sortiras une pièce d'or de ta poche, il y en aura une autre que tu pourras à nouveau donner pour payer tes dettes et vivre. Oui, bien, mais diable, si la pièce elle tombe de ma poche ou si quelqu'un me la vole, est-ce que vous pourriez pas me donner une petite bourse ? Avec deux lacets, et je mettrai la pièce dedans, et personne autre que moi ne pourrait défaire ces lacets. Tu es bien exigeant, forgeron, mais tu es un brave homme. Alors voilà. Et le diable a sorti de sa poche une petite bourse en cuir avec deux lacets. Il a mis la pièce d'or dedans et l'a tendue au forgeron. Le forgeron a remercié. Et là, le diable lui a dit « N'oublie pas, forgeron, dans 10 ans, tu reviens et ton âme m'appartiendra. N'oublie pas. » Le forgeron est redescendu au village. Il a été de ci, de là, payé ses dettes. Et petit à petit, sa famille a repris des couleurs. Les enfants se sont trouvés mieux. Sa femme aussi. Mais voilà, le temps passe. Et il continuait, lui, à faire ce qu'il faisait avant. Les gens venaient avec des outils, il les forgeait, sans rien demander. Les 10 ans se sont écoulés, et il a fallu retourner au pic du diable. Alors ce jour-là, il a pris un quignon de pain, mais frais, et une gourde remplie de vin rouge. Et il est monté au pic du diable. Quand il est arrivé en haut du pic du diable, le diable était si haut qu'il dépassait le plus haut des mélèzes. Le forgeron a regardé Le diable lui a dit, « Diable, diable, mais vous êtes bien grand, plus petit, vous pouvez ?»«
Mais bien sûr, mon ami, bien sûr, je suis le diable. »
Et là, le diable est arrivé à la hauteur d'un sapin. « Mais diable, dit le forgeron, vous pouvez encore plus petit ?»«
Eh bien oui, je peux, puisque je suis le diable. » Et le diable est arrivé à la hauteur de la tête du forgeron.
Et le forgeron a eu à nouveau un recul en voyant ses yeux méchants en face de lui. Et il a osé lui dire, « Eh diable, plus petit, vous pouvez encore ?»«
Bien oui, je peux, je suis le diable, tu le sais, ça fait plusieurs fois que je te le dis. »
Et le diable est arrivé à la hauteur des genoux du forgeron. Le forgeron s'est penché et a demandé au diable, « Eh diable, plus petit ?» « Vous pouvez encore ?»«
Oui, je peux, puisque je suis le diable. »
Et là, le diable est arrivé à la hauteur des chevilles du forgeron. Forgeron a dit, « Eh diable, plus petit, vous pouvez encore ?»
Et le diable a dit, « Oui, je peux, je suis le diable. »
Et le diable est arrivé à la hauteur d'une fourmi. Et là... Et là, le forgeron a sorti la bourse en cuir de sa poche et il a ramassé le diable à hauteur de fourmi, il l'a mis dans la bourse en cuir, il a serré les deux lacets.
Et le diable intérieur a eu beau crier.
Et le forgeron est redescendu au village. Il est rentré dans sa forge. Il a mis la bourse en cuir sur sa forge, sur son enclume, et il a pris le plus gros de ses marteaux. Et il a tapé, tapé, tapé toute la nuit, à tel point que les voisins disaient « Mais qu'est-ce qu'il a comme travail, le forgeron, en ce moment, à taper comme ça toute la nuit ?» Au petit matin, la bourse en cuir était toute plate, mais il y avait encore les deux lacets. Le forgeron a pris la bourse. Il a défait les deux lacets. Il a ouvert les deux morceaux de la bourse, les a écartés. Dans le creux de sa main, il a versé. Il a versé de la poudre grise et de la poudre d'or. Et dans un grand souffle, il a soufflé la poussière sur le village du Grand Villard. On dit, mais on dit beaucoup de choses, on dit que depuis ce temps-là, les gens du Grand Villard paraissent un peu bizarres.
Le tonneau.
Dans le village de Val-Louise, vivait le Raymond. Le Raymond, un rouspéteur, mais brave homme. Et ce jour-là, il était dans son champ. Et il poussait sa charrue. Mais brutalement, l'âne qui était attelé n'avançait plus.
« Mais qu'est-ce qu'il a ? Ce bougre d'âne n'a pas avancé !» Alors il a regardé. Et sur le socle, là dans la terre, sur le socle de sa charrue, il y avait un morceau de bois.
Un morceau de bois dans mon champ. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il a pris sa bêche, il a commencé à dégager autour du morceau de bois. Et en fin de compte, ce morceau de bois, c'était un tonneau qui était enfoncé dans le sol de son champ.
« Mais qu'est-ce qui m'a mis un tonneau dans mon champ ?»
Alors, en dégageant, il s'est aperçu que le tonneau, ma foi, il était beau, il était en bon état, presque neuf et volumineux.
« Ah, mais c'est pas si mal que ça, c'est dit le Raymond. »
Alors, il a complètement dégagé le tonneau, il l'a sorti de la terre, il a enlevé un peu...
voilà, la terre qui l'entourait, etc. Et il a dételé la charrue, il a attelé la charrette, et il a mis le tonneau avec grande difficulté, il était lourd. Il l'a mis dans sa charrette et il est rentré chez lui. Il a posé le tonneau dans la cuisine, et la Marie, sa femme qui était là, elle dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce tonneau ?»« Ben, tu vois, Marie, j'ai trouvé le tonneau dans notre champ. »« Tonneau dans notre champ ?»« Oui, ben voilà, c'est comme ça. »« Ah, il est beau ce tonneau, » qu'elle dit Marie. »« Eh oui, alors ils se sont mis à le nettoyer, enlever la terre. » Et la Marie, elle a dit, mais il faut nettoyer l'intérieur aussi. Elle est allée chercher une brosse à chien-dent et elle a commencé à nettoyer l'intérieur du tonneau. Mais le tonneau était très haut et elle a laissé tomber la brosse dans le fond du tonneau. Mais bon sang, mais tu peux pas faire attention. La Marie, elle a regardé dans le fond du tonneau pour récupérer, mais elle n'était pas assez grande et le Raymond, il s'est penché. Et là, dans le tonneau, il y avait plein de brosses. Plein de... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ils ont vidé le tonneau, ils ont compté les brosses, il y en avait 99. 99 brosses. Et la Marie, qui partait pas le nord, a dit, demain, c'est le marché à Val-Louise. Alors, tu vas prendre 98 brosses et tu vas les vendre au marché. Ah bah oui, Marie, c'est une bonne idée. Le lendemain, le Raymond, il est allé au marché. Et le soir, triomphant, il est arrivé dans la maison. La Marie était là. Le tonneau, il était toujours au milieu de la pièce. Et il avait une pièce d'or dans la main. Une pièce d'or. Ils n'en avaient jamais vu de pièce d'or. Et la Marie, elle a dit, montre voir. Et au-dessus du tonneau, il a montré la pièce. Et toute fébrile, la Marie, elle a pris la pièce et la pièce est tombée dans le tonneau. « Mais tu peux pas faire attention !» Et ils sont gardés tous les deux dans le tonneau et dans le fond du tonneau, il y avait 99 pièces d'or. « Oh, ben ça alors, on va réessayer !» Alors ils ont vidé le tonneau, ils ont mis une pièce dedans. Et à nouveau, il y avait 99 pièces d'or. Mais voilà, c'était des paysans. Et puis, la Marie, elle avait sa lessive à faire, et puis lui, il avait son champ à aller continuer à cultiver. Alors, le Raymond, il a vu... Mais il y a le Pépé, là. Le Pépé, il était dans le coin de la cuisine... Et il passait son temps à regarder une mouche voler. Parce qu'il faut savoir, en montagne, quand les bêtes elles montent en estive, il reste toujours une mouche dans la maison. Et cette mouche-là, elle vous embête. Chacun le sait. Et le Pépé, il passait son temps à regarder la mouche. Hé, Pépé, viens voir. Alors le Pépé, oui. Il est arrivé devant le tonneau. Et le Raymond lui a expliqué. « Tu vois, Pépé, on met une pièce d'or dans le tonneau, tu la vides et tu recommences. »«
Ouais. »
Mais le Pépé, il n'était pas bien costaud maintenant. Alors, devant le Raymond, il a commencé à vider le tonneau. Et puis il l'a vidé à moitié. « Mais Pépé, fais attention !» Alors, le pauvre Pépé... Il a essayé à nouveau, et pour être sûr qu'il avait bien posé la pièce d'or dans le fond du tonneau, il s'est penché, et il est tombé dans le tonneau. Et là, on a vu le tonneau gonfler, et il a éclaté. Et là, sur le sol de la cuisine, il y avait 99 pépés morts. Eh bien, je vais vous dire, moi, quand on a eu payé les 99 messes au curé, les 99 cercueils et les 99 repas aux gens qui étaient là, eh bien, des pièces d'or, il n'y en avait plus. Voilà ce que c'est d'être pas gentil avec le grand-père.
Pour finir, un conte breton, Le Bonhomme Misère.
Dans le pays de chez moi, on dit pas « je vais manger une pomme ». Non, on dit « je vais croquer une poume ». Et avec les poumes, on fait du bon cidre. Et avec le cidre, on mange des crêpes bien sucrées. Et dans le pays de chez moi, on raconte aussi des histoires comme celle-là. Dans le village, il y avait un bonhomme qui était tellement pauvre qu'on l'appelait le bonhomme misère. Oh, il avait sa petite maison dans un petit haut champ, mais ce qu'il avait comme trésor, lui, le bonhomme, c'était son poumier, un beau poumier qui donnait des pommes rouges, bonnes, sucrées. C'était sa fierté au bonhomme. Ce jour-là, il était dans sa cuisine et il préparait une feuillie soupe avec quelques feuillies légumes. Et là, il a vu arriver, au travers du petit carreau de sa fenêtre, un paytou, un vagabond, qui était sur son char. Oh ! Et le paytou l'a frappé. « Honte ! » qu'il a fait le bonhomme. « Bonjour, Paytou. Bonjour, bonhomme. Eh ben, Paytou, je fais ma soupe. On va la manger ensemble. T'es d'accord ?»« Ben oui, fait le Paytou. » Et il s'est assis. Il faut dire que le bonhomme, il n'avait pas d'assiette. C'était des trous dans la table. Il avait fabriqué deux espèces de cuillères en bois. Et les deux, ils ont mangé la soupe quand elle était servie. Ah, ils se disaient pas grand-chose. À l'époque, on se parlait pas beaucoup. Il suffisait de se regarder pour comprendre. À la fin, le paytou, il s'essuyait avec la manche de sa veste. Il a dit « Eh bonhomme, tu m'as fait plaisir, tu m'as accueilli, tu m'as donné à manger. Alors fais un vœu. » « Un vœu ? Mais j'ai tout ce qu'il me faut, » dit le bonhomme. « J'ai pas besoin de quelque chose. » « Mais si, bonhomme, t'as sûrement besoin. » Alors le bonhomme, il a pensé à son poumier. « Ah ben oui, eh ben, si on peut que... S'il n'y a personne qui peut manger mes pommes, s'il n'y a que moi qui dis, s'il y en a un dans l'arbre, reste là-haut, ne bouge pas, s'il n'y a que moi qui maîtrise ça. » « Eh ben, d'accord, » qui dit le paytou, « c'est ton vœu. » Il n'y a personne qui pourra, autre que toi, dire que la personne qui essaye de voler tes pommes pourra descendre. Et là-dessus, ils se sont dit au revoir. Le paytou est reparti sous le charin. Le lendemain, le bonhomme était parti en forêt et il ramenait un petit fagot de bois pour allumer son feu. Et il a entendu des cris de gamins. Ces gamins-là, ils étaient dans son pommier à essayer de prendre quelques pommes. Le bonhomme, il s'est approché, il a fait « Oh !» Et les gamins, ils sont restés collés à l'arbre. Le bonhomme, il a eu un petit sourire, il est rentré dans sa maison, il a attendu une petite heure, et il est sorti, il a fait « Hey, vous pouvez descendre !» Et les gamins, ils n'ont pas demandé leur reste. Ils sont partis en courant. Et même, quelques années plus tard, quand ils croisaient le bonhomme, ils étaient devenus grands, ils avaient un petit sourire, et lui aussi. Et voilà, le temps passe, et un jour, que le bonhomme, il était sur son banc, à prendre le soleil pour réchauffer ses os, est arrivé une espèce de bonhomme avec un grand manteau noir et une faux sur le dos. C'était la mort. La mort, elle s'est approchée du bonhomme et lui a dit « Hé, la mort ! Hé, hé, bonhomme, il va falloir venir avec moi. » « Oh, ben, oui, si c'est le temps. Mais avant la mort, j'aimerais bien manger encore une pomme de mon poumier. Ben, va la chercher. Ben, la mort, si tu viens me chercher, c'est que je peux pas bouger. » Tu peux pas me la prendre.
La mort, elle est montée dans le pommier, et elle a commencé à vouloir décrocher une pomme. Et le bonhomme, il a fait La mort, elle est restée collée au pommier, et elle a eu beau crier qu'elle avait du travail à faire partout dans le monde, et qu'on l'attendait. Le bonhomme, il n'a pas cédé. Il est rentré chez lui. Et puis les jours, les mois, les années ont passé, et sur terre, plus personne mourait. Les vieux, ils transmettaient plus rien aux jeunes. Et les jeunes, se désespéraient. Ils apprenaient plus rien. Alors il y a une délégation qui est venue voir le bonhomme misère. Eh, bonhomme, il faut arrêter tes bêtises. Il faut que la mort, elle reprenne son boulot. Le bonhomme, il a ronchonné un peu, il a dit « Bah oui, les gars, moi je veux bien, mais je vais aller voir la mort avant. » Alors il s'est approché de l'arbre où la mort se desséchait. « Eh, la mort, si tu me donnes du rabiot, je veux bien te délivrer. »« Eh ben oui, je veux bien te donner du rabiot, 30 ans si tu veux, mais sors-moi de là, j'ai du boulot à faire. » Et le bonhomme, il a fait « Oh !» Et la mort, elle est partie. Elle a repris son boulot et le monde a repris son cours, comme avant. Le temps a passé, les 30 ans se sont écoulés. Et un jour, le bonhomme, il était allongé sur son lit, il attendait. La mort est arrivée. Elle est rentrée dans la maison avec son grand manteau noir. Et le bonhomme, il n'a rien demandé. La mort a enveloppé le bonhomme dans son manteau. Elle est sortie avec le bonhomme, mais la misère, elle l'a laissé.